C'est Yvon Deschamps qui disait à l'époque, on veut pas le savoir, on veut le voir. Est-ce que les gens manquent de preuves concrètes d'histoires de drames dans le cas de la COVID-19 pour adapter leur comportement? Pourquoi soudainement ces regroupements où aucune consigne n'est respectée? Il me semble qu'on a payé assez cher avec le confinement. Comment convaincre les récalcitrants? On va en parler avec la docteure Kim Lavoie, professeure de psychologie en médecine du comportement à l'UQAM. Et elle fait partie d'une équipe, écoutez bien, de 150 chercheurs de 40 pays qui étudient l'impact des politiques de confinement et des mesures sanitaires. Docteur Kim Lavoie, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes étonnée de ce qu'on voit ces derniers jours?
Bien, en fait, je pense que, pour être bien franche, je pense que je suis plus déçue qu'étonnée. Et je pense qu'une chose qui informe un peu mon opinion, c'est en partie le résultat de notre étude. Juste à titre d'exemple, le but de l'étude, c'est vraiment de recenser c'est quoi les attitudes, les perceptions, les préoccupations et les comportements surtout des gens, non seulement au Canada, mais partout au monde, en lien avec les consignes sanitaires. Et une chose qu'on a pu constater chez des jeunes, surtout, parce que c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle dans ce contexte de déconfinement. Si on demande aux gens c'est quoi votre perception du niveau de l'importance de ces consignes-là, on a vu, on a plusieurs dates maintenant de notre étude, mm-hmm. On voit que chez des jeunes, il y a quelques mois, ça veut dire en avril, 80% disaient oui, c'est très important les consignes, et maintenant mi-juin, ça a baissé à 63% des jeunes qui trouvent que c'est important, et c'est une tendance dans tous les tranches d'âge, mais c'est plus prévalent encore chez les jeunes.
Puis on peut imaginer finalement, parce que chez les jeunes, on l'a dit tout l'hiver, étaient ceux qui étaient le moins atteints de la COVID. Quoique là, c'est en train de changer aux États-Unis, on l'a vu, des jeunes dans la trentaine, et il y a même un petit garçon de 11 ans qui est mort la semaine dernière. Donc on peut imaginer que pour les jeunes, déconfinement égal, ben là, tout est beau.
Exactement. Et je pense que les jeunes ne sont pas les seuls à croire ça, parce que n'oubliez pas, dans la période de confinement, c'était très clair. Le gouvernement, tous les niveaux de gouvernement étaient très clairs. Il faut rester chez nous, il faut tout fermer, il faut se distancier. Et je pense que dans l'ensemble, et c'est ça que nos résultats démontrent, les gens étaient assez respectueux de ça. Mais maintenant, avec le changement dans la politique, ben les perceptions, la compréhension des gens de l'importance de maintenir ces mesures de prévention, ça peut changer, parce que ça laisse croire que si c'était pas
si c'était dangereux,
sécuritaire, c'est ça. Mm-hmm. Si c'était dangereux, ben ils le feront pas. Mais ils oublient que et j'ai beaucoup d'empathie pour les gouvernements, c'est pas évident. Je pense que ça reflète beaucoup la tension entre le besoin de prendre soin de la santé publique, mais aussi le besoin de prendre soin de notre population plus large et de l'économie. Et je pense que les gens sont tannés, etc. Alors, c'est le yin et le yang, et c'est la tension qui va poursuivre, je crois.
Oui, parce que c'est ça. Dans un sens, il y a eu un peu de confusion, et cette confusion-là peut-être aussi vient mêler les jeunes. Il y a aussi, bon, les fameux récalcitrants, ceux qui refusent de porter le masque. Mais à votre avis, quand on dit que c'est notre comportement qui est la clé du succès, mais comment on le change, ce comportement, chez ceux qui veulent rien entendre?
Ben écoute, c'est une excellente question, et je pense que juste avant de répondre, je pense que c'est crucial que la population sache qu'on n'est pas impuissant face à cette pandémie. Et en attente d'un vaccin ou un traitement, la seule arme qu'on a vraiment face à cette pandémie, ça reste dans nos comportements collectifs et notre désir de vraiment passer par-dessus. Il faut arriver ensemble. Et pour vraiment changer un comportement comme les consignes, mais c'est vrai pour n'importe quel, il faut cacher trois cases. Il faut que les gens s'entendent qu'il y a un problème à résoudre, qu'il y a une maladie infectieuse, il faut faire de quoi pour justement maintenir des distances et réduire la propagation. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, il faut les motiver. Ça veut dire qu'il faut les convaincre, il faut leur montrer que en observant aux consignes, la vie serait meilleure. OK? Mais il ne faut pas non plus présumer que tout le monde serait motivé par les mêmes choses. Et troisième chose qui est super, super important, il faut faciliter l'adoption des comportements. Et je pense que c'est encore plus pertinent dans le contexte des masques, parce que c'est un comportement quand même assez complexe. Il faut rendre ça accessible, il faut que ça soit abordable et il faut qu'on rende ça normative. Et quand je me promène à Montréal, moi j'habite au centre-ville, écoute, peut-être je vois 2 personnes sur 10 qui en portent. Mm-hmm. Et les deux sont un peu comme, mais qu'est-ce que je fais là? Les autres n'en portent pas, peut-être que c'est pas important. C'est un peu l'inverse du phénomène avec les papiers de toilette. Bref, je pense que ça va nous aider énormément, la décision de la mairesse de mandater la porte du masque, parce que ça va nous aider à normaliser le comportement et tout le monde va se sentir un peu plus à l'aise.
Oui, puis les gens semblent aussi, vous disiez, avoir besoin de preuves là, que ça peut tuer et tout ça. Donc, des histoires de cas précis, des vrais humains versus des statistiques, quand on entend le nombre de morts chaque jour, le nombre de nouveaux cas, ça reste loin de nous, on dirait. Donc, pensez-vous vraiment qu'en parlant de cas précis, d'histoire précise, ça ferait une différence?
Ben écoute, oui, et je pense que c'est une excellente question. C'est vrai qu'une chose qu'on voit pas souvent, c'est la vraie souffrance causée par cette maladie. Pour plusieurs, je pense que ça reste encore très mystérieux. C'est que des chiffres sur l'écran qui montent là, sur des cartes. Et je pense que ça nous aiderait vraiment à comprendre l'ampleur du problème en personnalisant la maladie. On s'en souvient peut-être des photos d'Italie, de New York, mais c'est quand même très fou pour plusieurs. Alors, même si on a un cas léger, léger ne veut pas dire léger dans un sens. Ça veut juste dire c'est pas assez sévère de se rendre à l'hôpital. Mais léger, ça peut être un cas qui dure 3 à 6 semaines, poqué. Et les séquelles à long terme de cette maladie, c'est tout nouveau chez l'être humain. On n'en sait rien.
Ça, c'est tellement vrai. Eh bien, Kim Lavoie, spécialiste, psychologue en médecine du comportement à l'UQAM, je vous remercie beaucoup et souhaitons-nous que les consignes soient bien comprises et appliquées. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.